Et nous avons vu que la prière dans les derniers messages est effectivement, comme ça nous a été rappelé dans le temps de chant, un moyen de se décharger, littéralement dans la pensée de Pierre, de rejeter. Nous refusons les fardeaux. Notre âme n'est pas faite pour porter, elle n'est pas faite pour être chargée, elle est faite pour être libre, elle est faite pour prendre de l'altitude. Et le temps de prière n'est pas un moment où je me bagarre avec mes problèmes. La prière, c'est ce moment béni où je peux rejeter mes fardeaux sur Jésus qui a tout pris à la croix et où je peux réellement avoir une âme libre et légère et élever mon âme à la rencontre de mon Dieu. Et vraiment, par sa grâce, vider mon âme de ce qui la retient, de ce qui l'accapare, de ce qui l'écrase, et de pouvoir faire le plein de lui, je le dis ainsi. S'il est vrai, bien-aimé, que nous avons une multitude de besoins ici-bas, nous n'en oublions pas pour autant que nous avons des besoins spirituels. Et que parmi nos besoins spirituels, le plus grand de tous nos besoins reste le Seigneur lui-même, sa présence, sa vie en nous. Et comme nous l'avons chanté, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. David et tant d'autres l'avaient compris. Le besoin de mon âme, de ton âme, mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu traverses, le besoin premier, le besoin urgent, le plus important de ton âme, c'est ton Seigneur lui-même, c'est sa présence. Peu importe ce qu'il fera, comment il le fera ou ne fera pas, ton besoin, c'est sa présence. Et si, dans le temps que moi j'appelle prière, que ce soit seul, chez moi, ici, avec vous, en famille, en groupe, peu importe, le lieu, l'heure, les gens, peu importe. Ce temps que j'appelle prière ne m'a pas permis d'aller plus loin dans la présence de Dieu, ne m'a pas permis d'élever mon âme à Dieu. Si je ne ressors pas plus libre, plus léger, plus... Ah, il y a forcément quelque chose que j'ai dû manquer au niveau de ce temps de prière, puisque mon besoin le plus important, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce que David exprime, psaume 63, psaume 27. Je demande, je te cherche, mon âme a soif de toi. Seigneur, je désire une chose ardemment. Une chose ardemment. Seigneur, c'est ta présence. Je veux habiter, Yachab. Je veux m'installer dans ton temple, dans ta présence. Ce que je veux, Seigneur, c'est pas quelque chose de toi. Ce que je veux, Seigneur, c'est toi. Et c'est ça toute la différence dans la prière ici du psalmiste. Et dans cette même lignée, on ouvre ensemble ce soir le psaume 36, et on le lit tout entier parce que c'est pas très long, évidemment. Psaume 36, c'est encore un psaume de David. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta main sur ceux qui te connaissent, ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Oui, déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Amen. Ce soir, je veux partager encore avec vous sur la plus belle chose que nous pouvons expérimenter dans la prière, c'est le refuge de sa présence. Et c'est de ça dont il est question en partie ici. Ce psaume 36 se divise en réalité en trois grands axes. Premier axe, les versets 2 à 5. David ici fait un constat, c'est bien plus qu'un constat, il doit être sérieusement, même si on ne connaît pas le contexte, il doit être atteint par quelque chose, il fait un constat de la dépravation humaine. Et c'est certainement bien plus qu'un constat, c'est un vécu. Il parle des caractéristiques de l'orgueilleux, de sa méchanceté, des voies iniques, des voies tortueuses. Certainement bien plus qu'un constat quand on dit « Oh, vous savez, le monde va de pire en pire ». Oui, non, mais c'est pas. C'est vraiment plus qu'un constat. Je pense que David est concerné directement parce que au verset 12 et au verset 13, il dit « Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas ». Et en réalité, ici, bien aimé, David n'est pas en train de faire une prière en disant « Seigneur, que je ne devienne pas orgueilleux ». Ce n'est pas ça la pensée, même si ce serait déjà une excellente prière, de dire « Seigneur, garde-moi près de toi, garde-moi à tes pieds, Seigneur, je ne veux jamais céder à l'orgueil ». On sait très bien que l'orgueil, c'est le péché originel dans les sphères célestes. C'est ce qui peut arriver de pire à un homme, à une femme, à un enfant de Dieu, à un pasteur. Le pire du pire du pire qui peut toucher quelqu'un, c'est l'orgueil. Ça, c'est le pire du pire. C'est la voix de Saül, c'est la voix de Caïn, c'est la voix de Diotref. On a des tonnes d'exemples dans la parole. C'est le pire du pire. Et ce serait déjà bien de dire, Seigneur, garde-moi près de toi, garde-moi à tes pieds, dans ton humilité, dans ta présence. Mais ici, ce serait super, mais ce n'est pas ça la pensée. Ici, versets 12 et 13, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, c'est une image. C'est une métaphore qui est issue du monde militaire. Parce qu'à l'époque, on avait l'habitude, quelqu'un qui était vainqueur sur son ennemi vaincu, il avait l'habitude de poser son pied sur la tête ou sur le cou de son ennemi et de le maintenir à terre et de montrer ainsi sa victoire, sa supériorité. Et c'était ainsi qu'il humiliait son ennemi, il mettait son pied sur sa tête pour bien lui signifier qu'il était vainqueur et bien lui signifier qu'il était vaincu. Et ici, dans cette pratique de l'époque, il y a une autre version qui dit, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non, je ne vous l'ai pas mis, une autre version de Bible a traduit par « que le pied de l'orgueilleux ne s'avance pas contre moi ». Et c'est une idée similaire, une pensée similaire dans le psaume 13, « que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Ici, il y a certainement une situation qui est très oppressante pour David. C'est comme si David disait « Seigneur, permets-moi de sortir vainqueur de cette situation. Que cette situation, Seigneur, quelle qu'elle soit, que cette situation n'ait surtout pas raison de moi. » C'est ça que ça veut dire. Et cette situation, ce pire, quelle est la forme exacte de ce pire que David est en train de vivre ? Ça, j'en sais rien. Les textes ne donnent pas toujours les contextes. Mais on voit clairement, et ce n'est pas l'important, mais on voit que ce pire que David est en train de vivre est en réalité, frères et sœurs, et c'est là que je veux vous amener, il y a une pédagogie de Dieu dans l'adversité, c'est d'amener David à apprécier la nature de Dieu à sa juste valeur. Je ne sais pas, pas vous, ça ne peut pas vous concerner, je parle pour moi. Je ne sais pas si je suis toujours bien conscient de la valeur de la présence de Dieu et quelle est réellement la richesse, la valeur, la grâce et la dimension de bonté et de fidélité que Dieu répand sur mon cœur et sur ma vie. Et des fois je me dis, Seigneur, je pense que je ne t'apprécie pas encore à ta juste valeur, même si j'ai beaucoup de paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon cœur et dans ma bouche, psaume 45, je ne suis pas sûr, Seigneur, vu ton infinie grandeur, que je t'apprécie vraiment encore comme tu dois être apprécié. Alors qu'est-ce qui se passe ici à ce moment-là? On a les versets 6 à 11. Ta bonté, ce n'est pas tu es bon, il est bon le Seigneur hein, quand même. Ah oui, c'est vrai, il est bon. Oh, le Seigneur, il est fidèle quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai, le Seigneur. Non, 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 non. Seigneur, ta bonté atteint jusqu'aux nuées. Seigneur, ta fidélité va bien au-delà des cieux. Et verset 7, ta justice. Verset 8, David ne dit pas ta bonté, Seigneur, quand même. Non, non. Combien est précieuse ta bonté, mon Dieu. Et là, je n'ai pas un homme qui sait que Dieu est bon. Là, on a un homme qui se délecte. Comme un homme, un misérable, un pèlerin dans le désert qui n'a pas d'eau, qui trouve une source d'eau pure et fraîche. Là, il ne boit pas. Là, il se délecte. Là, il se régale. Et ici, David n'a pas dit « Tu es bon, Seigneur ». Il a dit « Combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu !» Et il y a vraiment ici ce cœur qui se délecte, qui va contempler la présence de Dieu, qui va réellement l'exalter. Et cette bonté, cette fidélité qui surpasse tout ce que nous pouvons, même ce que nos mots en disent. Vous n'avez jamais eu l'impression en priant que vos mots n'étaient carrément pas à la hauteur ? Bien sûr. Une bonté, une fidélité, pas seulement que je veux connaître, je le sais, mais je veux la considérer, je veux m'en abreuver, je veux m'en nourrir, je veux m'en délecter. Et l'intérêt de ce psaume, comme tant d'autres, mais ça me semble encore beaucoup plus flagrant ici, c'est que ce psaume est réellement un psaume de contraste. C'est ce qui fait la valeur des choses. C'est un psaume de contraste où le pire va côtoyer le meilleur. Et très souvent, c'est comme ça dans notre vie spirituelle, dans notre marche chrétienne, bien-aimée. Le pire et le meilleur se côtoient. Et c'est ici, à mon sens, extrêmement prononcé. Je peux déjà mettre la suivante, voilà. C'est déjà extrêmement prononcé le nombre de fois où des hommes et des femmes, faites bien attention dans la parole, où des hommes et des femmes, dans le pire, ont reçu le meilleur, ont vécu le meilleur. Marthe est dans le deuil, dans la peine, dans le doute, dans l'incertitude, dans la douleur, dans l'incompréhension totale de son deuil et de l'inaction de Jésus alors qu'elle croyait fermement que Dieu pouvait. Mais Jésus n'a rien fait. Et alors qu'elle est dans ce moment-là, c'est à cette femme, alors qu'une femme à l'époque n'est rien, c'est à cette femme qui plus est dans le doute, dans l'incompréhension, dans le deuil, c'est à elle que Jésus va révéler le point culminant de tous ces « je suis ». Je suis la résurrection et la vie. Et c'est dans le pire qu'elle va recevoir le point culminant des sept « je suis » de Jésus, la résurrection et la vie. Frères et sœurs, vous comme moi, je le sais, moi aussi, nous n'aimons pas l'adversité. Nous n'aimons pas le jour mauvais. Pourtant, c'est une occasion de recevoir des révélations, pas seulement de voir la main de Dieu dans nos circonstances, de recevoir des révélations de cœur. Le jour mauvais, c'est le jour idéal, pardon, pour réellement vivre une autre dimension de foi. Nous n'aimons pas les ténèbres, mais n'y a-t-il pas un endroit plus excellent que les ténèbres, même si c'est abject, pour que la lumière prenne tout son sens ? Vous n'allumez pas une lampe de poche, vous n'allumez pas une lampe, vous n'allumez pas une lampe à huile, vous n'allumez pas vos phares, je ne pense pas, quand il fait 40 degrés et que vous avez un soleil de plomb. Ça ne sert à rien d'avoir des lampes à ce moment-là. Mais dans la nuit, qu'est-ce que j'apprécie les phares de ma voiture ? Et David ne dit pas « tu es bon », mais David dit « combien est précieuse ta bonté ?» Parce qu'il est en train de savourer, par contraste de ce qu'il observe, de ce dont il est victime, il est en train d'apprécier la nature, la présence et les bienfaits de Dieu en lui à leur juste valeur. Je ne suis pas masochiste. je ne fais pas l'apologie de la souffrance. Je ne fais pas l'apologie de la maladie, de l'épreuve ou de l'adversité. Mes frères et sœurs, au risque de vous choquer, nous avons besoin de nos épreuves. Nous avons besoin de notre adversité. Même si nous n'en sommes pas conscients, nous en avons besoin. Comment est-ce que je peux apprécier? Vous savez, dans la vie, on apprend la valeur des choses par contraste. C'est pédagogique. Comment est-ce que je peux apprécier la valeur d'une oasis autrement que dans un désert? Je vous mets dans une petite prairie, verdoyante à souhait, avec un petit cours d'eau, deux arbres, un petit hamac, une légère brise, un petit peu chaud, mais pas trop, un petit peu de vent, mais pas trop, un petit hamac et une petite boisson fraîche, mais pas trop froide, sinon ça fait mal aux dents. Et comme ça, et je suis là, je suis bien, et je te dis, hé, regarde, il y a une oasis juste là. C'est rien du tout. Je ne peux pas comprendre la valeur d'une oasis. C'est, si je suis dans une prairie verdoyante, je dois être dans le désert pour comprendre la valeur. Comment est-ce que je peux comprendre qu'un refuge est salutaire et un tel réconfort, si ce n'est quand je suis dans une tempête en montagne? Mais si là, à côté de votre maison où vous êtes si bien, je vous dis, regardez, je vous ai construit une petite cabane refuge juste à côté de chez vous. Je vais me dire, mais qu'est-ce que j'en fasse? Vous savez qu'avant d'être en Provence, avant d'être à Manosque, j'étais en Normandie. Pourquoi tu rigoles? Comment est-ce que je peux apprécier le ciel bleu de Provence, cette luminosité extraordinaire qu'il y a les après-midi, même en hiver, si je n'ai pas connu la grisaille de Normandie? Et quand on est arrivé en France, oui, parce que la Provence, c'est en France, on est d'accord. Quand on est arrivé en Provence avec Anne, mais on était épatés de voir, même en hiver, cette luminosité. On dit, waouh ! Mais quand en Normandie, mais il faut comprendre, quand en Normandie, vous avez deux saisons. Vous avez le 15 août et le reste de l'année. Parce que le 16 août, on ferme tout, on range les parasols et on rallume les chauffages et les poêles à bois. Et quand vous avez vécu ça, vous arrivez en Provence, vous dites « Waouh !» Mais par contre, comment est-ce que je vais apprécier? Parce qu'en Normandie, au bout d'un moment, la pluie et la grisaille, c'est bon, hein. Mais comment est-ce que je n'appréciais plus la pluie? Comment est-ce que je vais apprécier la pluie? Cette douce pluie fine qui irrigue la terre, la pluie de l'arrière-saison. Comment j'apprécie cette pluie si je n'ai pas connu la chaleur éprouvante de PACA, où je me suis retrouvé avec 39, 40, 42, 45 degrés en plein soleil? Comment est-ce que je vais apprécier la pluie? En Normandie, la pluie, je ne l'appréciais plus. Mais ici, quand il y a de la pluie, je dis « Seigneur, il pleut !» Il a fallu que j'habite en Provence pour dire « Merci pour la pluie. » Combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu, si votre vie va toujours bien. Je suis désolé, on ne peut pas connaître la valeur de la bonté de Dieu. Si vous êtes toujours sous un ciel gris par 15 degrés et que je vous dis, regardez, je vous ai construit une magnifique piscine. C'est ridicule, mais à 45 degrés, la piscine prend tout son sens. Par contre, vous qui êtes provençaux depuis très longtemps, et que vous avez de l'habitude d'avoir des étés à 45. Je vous dis, regardez, je vous ai construit un super sauna pour vous réchauffer. Ah non, le sauna, il faut le mettre en Normandie, et la piscine, il faut la mettre en Provence. Et là, ça prend son sens, et là, j'apprécie. Frères et sœurs, je ne fais pas l'apologie de la maladie et de... Non, non, ok. Mais combien de fois est-ce que, alors que j'étais en pleine santé, j'avais tellement d'énergie, j'avais tellement de force, j'ai gaspillé mes forces? Comment est-ce que je peux comprendre la valeur, comme dit Paul, du mouvement, de la respiration, de l'être, si je n'ai jamais été affaibli dans mes moyens physiques? Ben, je n'ai pas 80 ans, j'en ai que 52. Mais je suis passé par des moments difficiles, mon épouse aussi. Et je peux vous dire très souvent, quand je me lève le matin, et je pense au Seigneur, et des fois je dis, Seigneur, merci. Merci pour le corps, merci pour ma santé. Quand j'avais 25 ans, je ne le faisais jamais. Il n'est pas net, votre pasteur, hein. Bien sûr, nous ne sommes pas maso, mais nous avons besoin, frères et sœurs, aussi d'être lucides sur notre véritable nature. Et plus le temps passe, plus les générations se succèdent, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus on entre dans cet esprit revendicatif permanent. Tout nous est dû. Notre génération aujourd'hui, chaque génération, est toujours plus marquée que la précédente par le mécontentement et l'insatisfaction. Tout nous est dû. Il faut tout au maximum, tout au taquet et tout, tout de suite. Ben, le problème, c'est qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est notre nature humaine. Imaginez votre plat préféré, ce que vous aimez le plus. Et ce plat, je vous le fais préparer par un chef étoilé qui, même mieux que votre mari, mieux votre épouse, va vous faire votre plat préféré. Mais à la perfection de la perfection, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas un grain de sel en trop, il n'y a pas un grain de poivre en moins. Il est parfait dans vos papilles. C'est ce qu'il y a de plus parfait. C'est votre plat préféré, mais fait à la perfection absolue. Mais ce plat, je vais vous le servir demain, après-demain. T'as compris? Je vous le sers toute la semaine, matin, midi et soir. Et je vous le sers 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je vous sers votre plat préféré à l'excellence tous les jours de chaque repas, sans exception. Vous ne passerez pas un mois comme les Hébreux avant de dire « Mon âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Comment est-ce qu'il y a des choses que je peux apprécier à ce point? Mon palais, ça marche, tout est dans la nature comme ça. Il faut que je connaisse ce qui est amer, ce qui est pimenté, ce qui est insipide, fade, pour apprécier ce qui est doux, ce qui est suave, ce qui est fruité, ce qui me fait du bien. J'ai besoin, frères et sœurs, tout dans la vie est comme ça. Tout fonctionne par contraste. Et c'est dans ces contrastes que nous apprenons en vérité la valeur des choses. Et ici, ça ressort particulièrement dans ce psaume, puisque David ne dit pas « Tu es bon Seigneur », il dit « Mais combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu ?» Ce qui ne fait pas lui un fou ou dingo, mais ce qui fait simplement de lui quelqu'un comme vous, comme moi, qui n'aime pas les géants. Je n'aime pas les géants, je n'aime pas les déserts. Je n'aime pas les tempêtes, je n'aime pas le jour mauvais, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas les épreuves, mais j'ai appris au pied du Seigneur humblement à reconnaître que j'en avais besoin. Parce que si je n'étais pas passé par où je suis passé dans les années de vie chrétienne et ministère pastoral, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et je n'apprécierais pas la valeur de ce que Dieu me donne. C'est comme ça que j'apprécie de la part de Dieu, parce que j'ai morflé, pardonnez-moi l'expression, j'ai morflé sur mon lieu de travail. J'ai morflé dans ce monde, j'ai goûté la nuit, j'ai goûté la haine, j'ai goûté tout ça, j'ai goûté le légalisme dans les églises, j'ai goûté la religiosité, j'ai goûté la destruction, j'ai goûté les esprits de division dans les églises, j'ai goûté tout ça, j'ai connu ces choses. Et là, je peux apprécier à sa juste valeur mon Dieu, avec sa prévenance, son amour, sa grâce, sa compassion, sa douceur, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, sa patience. La patience de Dieu sur nos vies, sa paix, sa joie, ses tendres soins, mon âme qui est légère, qui est bien en lui, dans sa présence. Et je dis, ah, c'est... mais je serais où, Seigneur, si tu n'étais pas là? Je serais peut-être plusieurs parmi nous, on ne serait même pas en vie. Et tout ça, je peux l'apprécier enfin à sa juste valeur. Quand j'ai été confronté, je ne relis pas tout, verset 2, verset 4, c'est paroles destructrices de gens qui en voulaient à David, qui vous en veulent, qui m'en veulent, des mots M-O-T-S qui nous brisent, qui nous cassent, qui nous font mal. Mais combien je bénis Dieu, psaume 45, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Tout ce que Jésus est, tout ce qu'il dit, ses paroles sont extraordinaires. Chacune de ses paroles, même quand il me dit ce que je n'ai pas envie d'entendre, chacune de ses paroles, au final, me fait quand même un bien fou, un bien considérable. Et j'apprécie la valeur de sa parole parce que j'ai souffert des paroles des hommes. C'est comme ça que je grandis. Vos amis, frères et sœurs, merci Seigneur pour nos amis. Vos amis vous encouragent. Bien. Mais vos ennemis vous font grandir. Et vous avez besoin de vos ennemis. C'est pour ça que Jésus dit, je paraphrase, prenez soin de vos ennemis, bichonnez-les, aimez-les, faites-leur des bons petits plats. Prenez soin de vos ennemis. Surtout, ne rentrez pas dans la même pensée, mentalité qu'eux. Ne fonctionnez pas selon les mêmes schémas et les mêmes méthodes. Aimez-les. Prenez soin d'eux parce que c'est eux qui vont vous faire grandir. Un jour, je vous prêcherai le psaume 118. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis même à la vue de mes ennemis. On verra ça. C'est comme ça que je grandis. Et c'est vrai que à toute épreuve, à toute adversité, il peut y avoir de la difficulté. Bien sûr, il y a différents objectifs que Dieu poursuit au travers de l'adversité. Mais un de ses objectifs fondamentaux, un de ses buts principaux, c'est que l'adversité, bien aimée, elle est censée me rapprocher de Dieu. Elle me rapproche de lui et elle m'amène à l'apprécier lui tel qu'il est. J'apprécie sa présence et j'en apprécie la valeur, j'en apprécie l'utilité et même la nécessité. Et pour finir, je vois l'âme de David, alors qu'à l'extérieur ça doit certainement chauffer pour lui, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais je le vois une fois de plus vivre le meilleur à l'intérieur, quand bien même à l'extérieur, dans les circonstances, c'est terriblement compliqué. Et voilà une âme qui, à l'intérieur, vit le meilleur, alors qu'à l'extérieur, visiblement, tout reste compliqué. Voilà une âme qui trouve, et voilà les bienfaits, il y en a tellement d'autres, ce ne sont que juste le psaume 36 dit ça, mais il y en a tellement d'autres, on en verra d'autres encore la semaine prochaine, avec un autre psaume. Une âme qui trouve, dans la présence de Dieu, le refuge nécessaire. Une âme qui, alors qu'elle est affamée, assoiffée à cause des circonstances, Jésus dit « Heureux, mais comment tu peux dire ça, Seigneur ? Heureux ceux qui ont faim et soif. » Oui, heureux ceux qui ont faim et soif. Ils seront rassasiés, ils seront désaltérés. Et mon âme trouve ça dans la présence de Dieu. Une âme qui, verset 10, je ne vous fais pas tout relire, mais tout ce que je vous dis là, c'est ce que disent en filigrane, c'est ce que disent les versets. « Jamais à court de ressources. » Une âme qui est toujours éclairée, verset 10. Une âme qui est toujours soutenue, une âme qui est toujours assurée du secours divin. Verset 13, c'est la conclusion de David. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne pourront pas se relever. Ça me fait penser au psaume 27 qu'on a vu la semaine dernière. Déjà ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Et alors que à l'extérieur, les choses sont ce qu'elles sont, mais à l'intérieur, quelle paix, quelle visitation de Dieu, quelle présence. Une âme qui est légère, une âme qui est déchargée, une âme qui va bien. Merci Seigneur, je ne veux pas aller plus loin, je veux qu'on ait vraiment du temps pour prier, pour intercéder, qu'on ait aussi le temps vraiment de louer Dieu, que chacun puisse ouvrir son cœur, que chacun puisse bénir le Seigneur. Et puis, à la lumière de ce que l'Esprit veut faire dans nos cœurs, dans nos vies, dans ces moments,